L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir pour ce 50e épisode de l'Odyssée géographique. Après avoir évoqué la semaine passée les mille et une aventures d'un djinn à travers le globe et à travers l'histoire, nous partons à la découverte d'un célèbre personnage de cinéma. Son matricule tient en trois chiffres qui lui donnent un permis de tuer. Toujours tiré à quatre épingles, il peut rattraper un avion en plein vol, sauter d'un pont sans se faire aucune égratignure et se battre sans faire un pli à son costume. Son cocktail signature est le vodka martini qui doit être préparé au shaker et non à la cuillère. Vous l'aurez certainement deviné, la chronique de cette semaine porte sur James Bond et sur les problématiques géopolitiques qui servent de toile de fond au film narrant les exploits de ce célèbre espion. James Bond, un acteur géopolitique, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Espion et écrivain. Les auteurs les plus célèbres de romans d'espionnage ont été eux-mêmes des espions ou étaient proches de ce milieu. Je vais vous présenter trois exemples emblématiques. Dans les romans d'espionnage, l'actualité internationale sert souvent de toile de fond. Les romans de la série SAS, qui ne sont pas ce que l'on pourrait appeler des chefs-d'œuvre de la littérature, étaient particulièrement bien documentés. L'auteur de ces ouvrages, Gérard de Villiers, était ami avec de grands reporters qui lui ramenaient des informations de première main. Il lui arrivait aussi de partir sur le terrain pour donner de la consistance à ses romans. John le Carré, avant d'être un auteur mondialement reconnu de romans d'espionnage, a lui-même été un agent du renseignement britannique. Ses ouvrages sont ainsi fortement empreints de l'expérience de sa première vie professionnelle, puisqu'il a été recruté par le SIS quand il était en poste à Hambourg. Ian Fleming, auteur des romans de James Bond, était officier du renseignement naval britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a passé 6 ans dans les services de renseignement et a effectué un séjour dans une école de formation pour espions à Toronto, au Canada. Un espion du MI6, Wilfried Dunderdale, avec lequel Ian Fleming s'était lié d'amitié, lui aurait inspiré le personnage de James Bond. Ian Fleming a écrit 14 ouvrages narrant les aventures de l'espion le plus célèbre de la Terre. Ces 14 livres ont tous été portés à l'écran. Ian Fleming a écrit ses livres en Jamaïque, dans sa résidence qui s'appelait GoldenEye. James Bond et la géopolitique. Les différents films de James Bond sont le reflet de la situation géopolitique de leur époque. La guerre froide, la lutte contre le terrorisme, le pétrole et la détention d'armes nucléaires constituent souvent le nœud des intrigues, au cœur desquelles se situe l'espion au service de Sa Majesté. Dans le film Casino Royale, la question des enfants soldats est abordée. Cela faisait écho au dictateur du Libéria, Charles Taylor, qui s'est maintenu au pouvoir en recrutant des enfants soldats qui étaient baptisés les Small Boys Units. Dans le film On ne vit que deux fois, où l'on retrouve l'organisation Spectre, les USA et l'URSS sont sur le point de déclencher un conflit. Dans Demain ne meurt jamais, James Bond affronte Jonathan Pryce, qui incarne Elliot Carver, qui est un mania des médias, possédant un vaste réseau de satellites qu'il souhaite utiliser pour étendre son pouvoir. Cette intrigue fait référence aux batailles féroces que mènent les grands groupes de communication et d'information et qui se déroulent via le lancement de satellites. L'homme au pistolet d'or sort sur les écrans en 1974, soit un an après le premier choc pétrolier. Dans ce film, James Bond, incarné par Roger Moore, doit récupérer un capteur d'énergie solaire. Cette intrigue s'inscrit clairement dans les problématiques géopolitiques de l'époque. En 1973, les pays arabes décrètent un embargo sur les produits pétroliers à l'encontre de tous les États soutenant Israël. Parallèlement, le prix du baril de brut a augmenté de 70%. Le film Permis de tuer présente un trafiquant de drogue sud-américain qui a des accointances avec la CIA. Ce trafiquant ressemble fortement à Manuel Noriega. Noriega a été président du Panama entre 1983 et 1989. Il cumule sa fonction de président avec celle de chef des forces armées panaméennes. En 1967, il est recruté par la CIA et il servira de tête de pont entre les États-Unis et les Contras du Nicaragua. Dans les années 1980, il devient un membre de plus en plus influent du cartel de Medellín. Dans GoldenEye, l'actrice Judi Dench joue le rôle de la supérieure de James Bond, puisqu'elle dirige le MI6. Le film fait écho à un fait réel. En 1995, Stella Remington devient la première femme à diriger le MI5, le service de sécurité intérieure du Royaume-Uni. Istanbul, un nid d'espions. La ville d'Istanbul sert souvent de cadre à des affaires d'espionnage. Dans les années 1900, Mata Hari a mené des missions d'espionnage au sein du célèbre hôtel, le Pera Palace. La position géographique d'Istanbul, à cheval entre l'Orient et l'Occident, fait que cette ville a abrité et abrite encore de nombreux espions provenant des plus grandes agences de renseignement du monde. De célèbres vrais espions ont opéré à Istanbul, comme l'agent double Kim Philby, qui a dirigé le service de contre-espionnage britannique entre 1947 et 1948. James Bond s'y rendra à 3 reprises, Bon baiser de Russie, Le monde ne suffit pas, et Skyfall, avec une mémorable course-poursuite en moto sur le toit du Grand Bazar. Dans Bon baiser de Russie, une partie de l'action se situe dans la citerne basilique qui a été construite en 532 par l'empereur Justinien. La problématique énergétique et la bataille qui oppose la Russie à l'Europe est au cœur du film Le monde ne suffit pas. Il y est question de l'évacuation du brut azerbaïdjanais vers l'Europe via le territoire turc. Le film fait ainsi référence à l'oléoduc Baku Tbilissi-Tchéan qui a été mis en service en 2005. Cet oléoduc part d'Azerbaïdjan, traverse la Géorgie et arrive jusqu'aux rives turques. Ce projet est soutenu par les États-Unis, qui souhaitaient un tracé évitant la Russie ou un autre pays soutenu par Moscou. C'est ce qui explique que cet oléoduc évite soigneusement l'Arménie. Ainsi s'achève cette chronique dédiée aux aventures de James Bond et au contexte géopolitique accompagnant son évolution. On peut ainsi dire que les films de James Bond sont une illustration d'un pan de l'histoire contemporaine. Tout au long de la série de films, le personnage de James Bond évolue. Sean Connery incarnait un James Bond viril et brutal. D'aucuns diraient qu'il était macho. Roger Moore était beaucoup plus consensuel et rappelait son rôle de Lord Brett Sinclair dans Amicalement Vôtre. Daniel Craig renoue avec la tradition virile de Sean Connery, mais incarne un James Bond beaucoup plus dark et torturé, faisant face à la disparition de la femme qu'il aime dans Casino Royale. Un James Bond qui voit aussi mourir dans ses bras M. Cette même M qui lui dira « Monsieur Bond, je pense que vous êtes un dinosaure sexiste et misogyne, une relique de la guerre froide. » Au mois d'avril, un nouvel opus débarque au cinéma, ce qui sera l'occasion de voir quel type de menace James Bond devra affronter. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.